Chapitre 3. Cette année-là, Pâques tombait très tard. La foire au pain d'épices durait encore et les cafés-concerts des Champs-Élysées venaient déjà d'ouvrir. À Paris, c'est signe que le printemps commence. Les viveurs n'ont pas besoin de consulter le calendrier pour changer de plaisir. Au lieu de s'enfermer dans les théâtres, ils vont là où ils sont sûrs de trouver des femmes en toilettes claires et de dîner en musique. Ainsi avaient fait Julien Gémozac et Alfred de Fresnay le soir du jour où Camille Monistrol s'était présentée pour la première fois chez l'associé de son père. Julien n'avait pas encore digéré le mauvais tour que son camarade lui avait joué en le plantant là après leur aventure de la barrière du trône. Il ne lui reprochait souvent et au fond il lui en gardait rancune, mais rien ne lie comme les vices et ces deux garnements étaient inséparables. Ils s'étaient rencontrés, comme d'habitude, à la partie de baccarat du cercle de 4 à 7. Par exception, ils avaient gagné, et le gain les ayant mis en belle humeur, ils avaient décidé d'un commun accord de passer la soirée au café des ambassadeurs. Ils s'étaient fait servir sur la terrasse qui domine le concert, et ils y mangeaient en nombreuse compagnie. La fine fleur du quart de monde était là. On se disputait les tables, et ces messieurs s'estimaient fort heureux d'en occuper une des mieux placées, juste au milieu et tout contre la balustrade. Ils étaient venus pour s'amuser, et ils s'amusaient, mais les deux convives n'étaient pas montés au même diapason de gaieté. Fresnay, tout à la joie, échangeait les signes avec les horizontales assises dans le voisinage, interpellait gaiement les messieurs qu'il connaissait, et il en connaissait beaucoup, car il était un peu de toutes les bandes, blaguait les chanteuses qui s'égosillaient sur la scène, et ces distractions diverses n'empêchaient pas de boire et de manger comme quatre. De boire, surtout, et du train dont il allait, il devait infailliblement finir par se griser. Julien, moins exubérant de sa nature, prenait son plaisir en dedans et pensait à une foule de choses qui n'avaient aucun rapport avec le bruyant entourage qui s'agitait sous ses yeux. Il pensait que l'existence, même dorée, devient monotone quand elle n'a pas de but, que les farceuses à la mode se ressemblent toutes et que le bonheur ne consiste pas à souper avec ses demoiselles et à tracasser la dame de pique. Il pensait qu'il approchait de la trentaine et que la vie de famille a son charme. Il pensait surtout à Camille Monistrol. La jeune fille qu'il avait vue le matin, si belle et si sérieuse, lui apparaissait comme un vivant contraste avec toutes ces dévoyées qui n'étaient venues là que pour chercher fortune. Leur manège le dégoûtait et ses nerfs se crispaient quand il les entendait rire à faux des plaisanteries stupides de leurs amis de rencontre. Et il en était à se demander s'il ne ferait pas mieux de passer carrément et d'un seul saut dans le camp des bourgeoises. Il dépendait de lui de prendre pour y entrer un chemin que Mademoiselle Monistrol lui avait indiqué et qui lui plaisait précisément parce qu'il n'était pas facile à suivre. Courir les aventures et braver les dangers pour conquérir la main d'une honnête fille, c'était plus tentant et plus neuf que de subventionner des drôlesses et même que de se laisser tranquillement marier par ses parents à quelque riche héritière. Ces sages réflexions juraient avec les grimaces du comique de l'endroit qui mimait en ce moment une chansonnette désobilante, et elles ennuyaient Fresnay qui se mit à dire « Oh, tu as le vin triste, toi, nous en sommes à notre troisième bouteille de Roederer, et tu n'as encore ouvert la bouche que pour boire. À la seconde, j'étais déjà gai comme un pinson. Maintenant, je commence à avoir envie de faire des bêtises. » Moi pas, répliqua laconiquement Julien. Mais tu pariais 100 francs que je grimpe sur l'estrade là-bas et que je dégoise une romance? Tu en es bien capable, mais on te mettrait au poste et je t'y laisserai. Ça, ce ne serait que pour t'apprendre à me lâcher comme tu l'as fait l'autre jour. « Comment? Tu m'en veux encore? Mais tu devrais me remercier. Je t'ai laissé en tête-à-tête avec une personne qui t'avait donné dans l'œil. Et avec un homme assassiné. Mon cher, j'avais promis à deux femmes charmantes de leur payer à souper. Or, je n'ai qu'une parole, et tais-toi. Tu ne comprends rien, et tu ne seras jamais qu'un gommeux. Alors, tu crois que je n'ai pas de poésie dans l'âme? Eh bien, tu t'abuses, mon cher. J'aspire à me lancer dans de chevaleresques extravagances. J'ai soif d'inconnu. Oui, moi, Alfred de Fresnay, gentilhomme angevin et sceptique de profession, je rêve un idéal. Le diable, c'est que je ne le trouve pas, mais il me prend par moments des envies de me sacrifier pour une femme. Une femme comme on n'en voit pas. Montre-moi une qui en vaille la peine, et je me déclarerai prêt à la défendre envers et contre tous. Ah, tu hausses les épaules, tu crois que je blague. Mais c'est que tu ne me connais pas. J'ai des tendances romanesques. Tant pis pour toi si tu ne les as pas aperçues. Des tendances cachées. Oh, elles apparaissent surtout quand tu as bu. Et quand j'ai gagné au baccarat, mais tu n'as qu'à me mettre à l'épreuve. Tiens, le voilà ton idéal, répliqua Gémozac, impatienté par ses propos d'ivrogne. Oh, cette femme qui vient d'entrer, je ne dis pas non. Elle est superbe, et puis elle a un type étrange. L'idéal en question était une grande diablesse bien plantée qui ne ressemblait pas du tout aux créatures attablées sur la terrasse. Celles-là, brunes ou blondes, étaient toutes bâties sur le même modèle et habillées à peu près de la même façon. Qui en a vu une, en a vu 100. C'est un troupeau de brebis égarées. La nouvelle venue portait une toilette bizarre qu'aucune couturière en renom n'aurait voulu signer et qu'elle avait dû inventer tout exprès pour se faire remarquer. Ses cheveux étaient roux, de ce roux vénitien qu'affectionnaient les maîtres du XVIe siècle. Ses yeux brillaient comme deux diamants noirs et ses lèvres ne souriaient pas. Avec son grand chapeau à bord tailladé et sa robe à demi décolletée, elle avait l'air d'un Velasquez détaché de son cadre. Son entrée avait fait sensation. Les coquelettes ricanaient, et leurs aimables compagnes chuchotaient. Évidemment, personne parmi les habitués de la terrasse ne connaissait cette femme, qui cependant ne devait pas être une débutante, car elle ne paraissait pas timide. Elle regardait dédaigneusement l'assistance, et elle restait là, coudoyée à chaque instant par les garçons qui allaient et venaient du couloir à la terrasse. Fresnay ne manqua pas cette occasion de prouver à son ami que les aventures excentriques ne l'effrayaient pas. Il se leva, aborda carrément la dame et lui dit sans préambule « Vous cherchez une place? Il y en a une à notre table. »« Non, je cherche quelqu'un, » répondit-elle froidement. « Quelqu'un qui vous fait poser, puisqu'il n'est pas là, ben dînez avec nous. »« Merci, non, j'ai dîné, mais je veux bien m'asseoir. » Sur quoi Fresnay lui prit galamment la main et la conduisit à la chaise qu'il venait de quitter et qu'elle occupa sans se faire prier. Gémozac se serait bien passé de la compagnie que son camarade lui amenait. Cependant, sa curiosité s'éveillait. Il se disait « Mais où donc ai-je vu cette figure-là ? » Mais il avait beau regarder attentivement cette rousse aux yeux noirs, il ne parvenait pas à se rappeler dans quelles circonstances il l'avait rencontrée. C'était chez lui un souvenir confus. Peut-être même était-il dupe d'une ressemblance. La taille, le teint, les traits, il croyait les reconnaître, mais il y avait dans l'ensemble quelque chose qui le déroutait. Fresnay, enchanté de sa trouvaille, prenait déjà des airs triomphants. Il se rengorgeait. Il avait mis ses pouces dans les entournures de son gilet et il se balançait sur sa chaise en lorgnant l'étrange personne à côté de laquelle il était assis. Il semblait dire aux gens « C'est moi qui ai fait cette conquête et je vous en souhaite une pareille. » La dame ne lui rendait pas ses œillades et ne desserrait pas les dents. Elle ne paraissait même pas s'apercevoir qu'elle était accablée avec deux messieurs qui valaient pourtant bien la peine qu'elle s'occupât d'eux, car Gémozac était un très joli garçon, et Alfred de Fresnay était ce qu'on appelle dans le monde gay pourri de chic. Elle ne voyait que la scène, étincelante de lumière et émaillée de demoiselles très décolletées, qui n'étaient là que pour la montre. Cette contemplation l'absorbait à ce point qu'elle ne remarquait pas les manèges de son voisin. Avouez, dit Fresnay en goguenardant, que vous êtes venu pour entendre chahier le petit bossu, toutes les femmes le gobent. Je ne le connais pas, répliqua dédaigneusement Larousse. Ah, c'est donc la première fois que vous venez aux ambassadeurs. Oui, qu'est-ce que c'est que ces dames assises en rond là-bas, sur les planches? Est-ce qu'elles vont chanter? Oh, je mets de la vie, ce sont de simples figurantes. Et pourquoi les a-t-on habillées l'une en bleu et l'autre en rouge, l'autre en jaune, l'autre en vert? On dirait une nichée de perroquet. Absolument, madame, le mot juste. Madame serait-elle artiste dramatique? Non, artiste lyrique, peut-être? Pas artiste du tout, étrangère. Oh, ça ne m'étonne pas. Les Françaises n'ont pas les yeux et les cheveux comme les vôtres. Vous devez être espagnole. Non, je suis hongroise. J'en reviens tout de même. Votre nationalité ne vous empêchera pas d'accepter un verre de champagne. Je veux bien, j'ai soif. Fresnay s'empressa de remplir un verre mousseline. Non, non, dit la dame, pas là-dedans. J'aime mieux une coupe. Je vais en demander une au garçon. Oh, pas la peine, je me servirai de celle-ci. Et s'emparant de la coupe pleine que Julien avait devant lui, elle la vida d'un trait. Le procédé était familier, mais si mal disposé qu'il fût, Julien ne pouvait guère se fâcher. Il s'inclina même pour remercier l'étrangère de l'honneur inattendu qu'elle lui faisait, et elle lui rendit un sourire engageant. Ses façons commençaient à l'intriguer, et il s'efforça de plus belle de ressaisir un souvenir qui lui échappait, le souvenir d'une rencontre avec cette énigmatique personne. Il n'y réussit pas davantage, mais il resta convaincu qu'il l'avait déjà vu quelque part, et il risqua une question. Puis-je vous demander, madame, depuis combien de temps vous êtes à Paris? Je ne suis jamais allé en Hongrie, et cependant je m'imagine que votre visage ne m'est pas inconnu. C'est possible, je suis arrivé la semaine dernière, mais je vais partout, je veux tout voir. Seul? Dit Fresnay en clignant de l'œil. Oui, monsieur, je me passe fort bien le protecteur, car je ne crains personne. Ah, alors vous n'êtes pas marié? Je n'ai pas besoin de mari. Comment l'entendez-vous? J'entends que je veux me gouverner comme il me plaît, et il me plaît en ce moment de courir les coins et les recoins de cette ville curieuse. Ce ne sont pas les monuments qui m'intéressent. Je veux découvrir le Paris inconnu dont j'ai lu tant de descriptions dans les romans français, les Bouges, les Assommoirs. Et vous commencez ce soir par un café-concert. C'est parfait, chère madame. Mais il y a mieux, je suis en mesure de vous mener dans les bons endroits. Je serai donc votre guide, si vous le permettez, et je vous garantis que vous n'en trouverez pas de meilleur. Merci, j'en ai un. Qui ça? Un interprète qu'on vous a fourni à l'hôtel où vous êtes descendu? Un domestique de place à 10 francs par jour? Il vous fera visiter la Monnaie, les Halles et les abattoirs? Tandis qu'un vieux Parisien comme moi vous montrera ce que les étrangers ne voient jamais. Vous n'y êtes pas, monsieur. Mon guide n'est pas à mes gages. C'est un de mes compatriotes qui habite votre pays depuis 10 ans... et qui a été l'ami de mon père. Il s'est mis à ma disposition, et nous sortons ensemble tous les jours. Ce soir, je pensais le trouver ici. Il m'avait dit qu'il y dînerait. Et il vous a manqué de parole, c'est impardonnable. Mais vous n'y perdrez rien, car je le remplacerai avantageusement. Où faut-il vous conduire après le concert? Parlez, ne vous gênez pas. Désirez-vous voir la bibine du père Lunette, la cité du soleil, vulgairement appelée le petit Mazas? Voulez-vous souper au tombeau des lapins, le restaurant préféré de messieurs les chiffonniers? Tout cela doit être très intéressant, mais ce que j'ambitionne, c'est d'assister à une chasse à l'homme, des policiers traquant un assassin, comme dans les livres de Gaboriau. Cette femme-là est folle, pensa Julien. Bon, je comprends ce désir, répondit imperturbablement Freinet. Seulement, ces expéditions-là ne se font pas à jour fixe. Et d'abord, vous qui possédez si bien notre langue, vous devez connaître le proverbe. Pour faire un civet, il faut un lièvre. Et les assassins, fort heureusement, sont plus rares que les lièvres. On ne s'en douterait pas quand on lit vos journaux. Il n'y a pas de jour où ils ne racontent un crime nouveau. Le lendemain de mon arrivée à Paris, ils ne parlaient que de l'assassinat du boulevard... Oh, je me rappelle plus le nom. Ah, du boulevard Voltaire. Ah, en effet, oui, c'est tout récent. Mais c'est une affaire très curieuse. Julien allongea sous la table un coup de pied à Freinet, qui reprit, sans se déconcerter, « Oh, je vous étonnerais bien, chère madame, si je vous disais que j'y ai été mêlé, et mon ami aussi. »« Vous, monsieur ?» s'écria la dame en regardant Gémozac, qui aurait volontiers battu son camarade. Freinet se chargea de répondre. « Bon Dieu, oui, dit-il, mon ami Julien Gémozac, que j'ai l'honneur de vous présenter, a découvert le cadavre. Nous nous trouvions là par hasard. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que Julien connaît beaucoup la fille du malheureux qu'on a étranglé. Ah, c'est vrai, murmura l'inconnu. Le journal a dit qu'il avait une fille. Une très jolie personne, ma foi, et toute jeune. Oh, que je la plains. Je sais que c'est dur que de rester orpheline à l'âge où l'on entre dans la vie. J'avais 16 ans quand j'ai perdu mon père, et encore moins à sa mort, j'ai hérité d'une grande fortune, tandis que cette pauvre enfant se trouve sans doute dans la misère. Oh, quant à cela, rassurez-vous, chère madame, elle est riche. Vraiment ? Demanda l'étrangère avec une vivacité qui surprit beaucoup Gémozac. Oui, répondit Freinet, elle est très riche et pourtant le père n'avait pas le sou. Il s'est trouvé qu'il avait inventé je ne sais quel appareil pour les machines à vapeur et que cette invention rapportera énormément d'argent à sa fille. Julien vous expliquera cela beaucoup mieux que moi, car son père était l'associé du défunt. Il est maintenant l'associé de l'orpheline. Mais fille, diras-tu cette conversation stupide ? S'écria Julien, exaspéré par les bavardages intempestifs de son malheureux camarade, qui semblait prendre à tâche de l'irriter en parlant de Mademoiselle Monistrol à une inconnue très suspecte. Pardonnez-moi, monsieur, dit doucement cette singulière créature. Je vous ai affligé, sans le vouloir, en interrogeant votre ami sur une personne à laquelle vous vous intéressez. Je regrette beaucoup de vous avoir fait de la peine. J'ai eu tort aussi de m'asseoir à votre table quand vous avez dû me juger fort mal. C'est la faute de mon caractère et de l'éducation que j'ai reçue. Je suis accoutumé à ne jamais me contraindre et à ne mesurer ni la portée de mes paroles ni la portée de mes actes. Mais je vous supplie de ne pas me prendre pour une aventurière. Je suis la veuve du comte de Lugos. J'habite au grand hôtel jusqu'à ce que j'aie trouvé une installation plus convenable. Et si vous voulez bien venir m'y voir, j'espère que vous changerez d'opinion sur mon compte. Je vous présenterai mon compatriote, M. Tergovitz, que j'espérais rencontrer ici ce soir. Et moi, s'écria Freinet, est-ce que vous me fermerez votre porte? Non, monsieur, car j'espère que vous allez me dire votre nom. C'est juste, je vous ai présenté mon ami Gémozac, et comme il ne me paraît pas disposé à me rendre l'appareil, je vais me présenter moi-même. Alfred, baron de Freinet, 29 ans, orphelin, célibataire et propriétaire en Anjou. Nous deux, Julien et moi, nous représentons la noblesse et le tiers-état. Mais je troquerai volontiers les revenus de ma baronnie contre les millions du père Gémozac, qui reviendront un jour à son fils unique, ici présent. Il me suffit de savoir que j'ai affaire à deux gentlemen. Je suis charmé, messieurs, de vous recevoir. Mais je doute que vous gardiez le souvenir d'une rencontre due au hasard. Oh, je vous prouverai le contraire, et bientôt, dit chaleureusement Freinet, qui s'emballait de plus en plus sur la belle aux cheveux roux. Julien ne dit mot, il ne croyait pas au beau discours de la dame, et cette soi-disant comtesse hongroise lui faisait de plus en plus l'effet d'être tout simplement une intrigante. Il commençait même à soupçonner qu'elle avait ses raisons pour s'adresser à eux, et il maudissait l'indiscrétion d'Alfred, qui s'amusait à la renseigner et qui ne paraissait pas disposé à s'arrêter en si beau chemin. « Du reste, reprit cet incorrigible bavard, je compte, chère madame, que nous allons vous offrir dès ce soir une excursion intéressante. Après le concert, je vous montrerai, si vous le permettez, un des coins les plus bizarres du Paris nocturne. » En attendant, dit l'étrangère sans se prononcer, je vous prie de me laisser jouir d'un spectacle tout nouveau pour moi. Est-ce qu'on ne chantera plus, les dames de toutes couleurs s'en vont, et la scène reste vide? Oh, elles reviendront, mais nous allons d'abord avaler des exercices de trapèze qui ne vous amuseront guère. Oh, pardon, j'aime beaucoup les gymnastes. Et je suis très curieuse de voir si ceux-là sont aussi forts que les nôtres. Gymnaste, répéta mentalement Gémonag. Elle emploie le mot propre et elle parle un français très correct. Mais d'où sort-elle? Jamais je ne me déciderai à croire que c'est une femme du vrai monde, quelque institutrice déclassée peut-être. Mais ce fou d'Alfred tirera la chose au clair, sans que je m'en mêle. Alfred continuait à boire pour s'exciter, et la problématique comtesse suivait avec une attention marquée le travail de deux artistes en maillot couleur chair, en caleçon de velours noir et en bottines frangées d'argent, qui exécutaient sur une barre fixe les tours les plus extraordinaires, pirouettant, voltigeant, se balançant accrochés par les mains, par les dents, par la nuque ou par les jarrets. Elle s'y connaissait sans doute, car tantôt elle approuvait d'un hochement de tête un saut bien réussi, tantôt elle faisait la moue lorsque l'exécution d'une cabriole difficile laissait à désirer. La chaise que le galant Freinet lui avait cédée était tout près de la balustrade. La dame, absorbée par ce spectacle intéressant, finit par s'accouder sur cette clôture en bois, sans plus se préoccuper des deux jeunes gens assis à la même table qu'elle. Julien ne la voyait plus que de profil, et Alfred ne la voyait plus du tout, car elle lui tournait le dos. Les dîners des deux sexes qui remplissaient la terrasse ne s'occupaient pas de ce trio mal assorti. Mais les deux amis échangeaient des signes que la Hongroise, placée comme elle l'était, ne pouvait pas apercevoir. « Décampons le plus possible, le plus tôt possible, mimait Julien. Je veux pas m'accointer de cette femme toute la soirée. »« Oh, elle me plaît, répondait Alfred par des jeux de physionomie. Va-t'en si tu veux, moi je reste, et je pousserai l'aventure jusqu'au bout. » Et personne ne bougeait, quoique Julien enrageât de tout son cœur. Il aurait voulu s'esquiver sans bruit, mais il devinait que s'il se levait, l'insupportable Alfred l'interpellerait, que la dame se mettrait de la partie et qu'une explication s'ensuivrait. Il faudrait donner des raisons pour motiver ce départ précipité, et il n'en trouvait pas de bonnes, car Alfred savait parfaitement que son camarade n'avait rien à faire ce soir-là. Tout en maugréant à part lui, Julien, à côté comme l'étrangère à la balustrade, regarda au-dessous de lui et il avisa en bas un monsieur qui, au lieu de suivre des yeux le spectacle, faisait face à la terrasse et levait la tête en l'air, comme s'il cherchait quelqu'un parmi les dîneurs. Ce monsieur était jeune, bien tourné, bien vêtu, bien ganté, et il n'y avait pas lieu de s'étonner qu'il passât en revue les jolies horizontales accablées au-dessus de sa tête. Mais Julien s'aperçut vite qu'il observait uniquement la prétendue comtesse et qu'il devait la connaître, car il fit un geste qui ne pouvait s'adresser qu'à elle et qui voulait dire, selon toute apparence, « Très bien, j'ai compris, c'est convenu. » Julien avait surpris la fin d'un entretien muet, et cette découverte le mit encore plus en défiance. « Bonsoir les gymnastes !» s'écria Freinet. « Les voilà partis. On baisse le rideau, nous allons retomber dans les fortes chanteuses et dans les ténors légers. » « Madame la comtesse tient-elle beaucoup à les entendre ?»« Mon Dieu, non, » répondit l'étrangère. « Mon compatriote n'arrive pas, il est inutile que je l'attende, car je commence à croire qu'il a oublié notre rendez-vous. »« Heureusement, je suis là pour vous servir, chère madame, et je vous promets de vous faire voir du nouveau, si vous voulez bien vous en rapporter à moi. » Je ne dis pas non, mais à condition que votre ami sera de l'expédition. Ah, n'y comptez pas, dit vivement Julien. Tu viendras, reprit Freinet, car je vais te mener dans un monde où tu as des chances de rencontrer l'assassin de l'associé de ton père. Et tu as promis à Mademoiselle Monistrol de l'aider à retrouver ce gredin. Qu'est-ce que c'est que Mademoiselle Monistrol ? Demanda tranquillement la soi-disant comtesse de Lugos. C'est la fille de l'inventeur dont je vous parlais tout à l'heure, et dont les journaux vous ont raconté la mort tragique. Moi, je n'ai fait que l'entrevoir, et je ne sais trop si je la reconnaîtrais, mais mon ami Gémozac est destiné à la rencontrer souvent, et il lui est tout dévoué. Je te prie de te taire, dit Julien avec colère. Mais. « Ne vous défendez pas, monsieur, d'un sentiment qui vous honore, » reprit la noble étrangère. « Cet enfant est seul au monde, à ce qu'il paraît. Il est tout naturel que vous vous attachiez à elle, et si réellement elle songe à venger son père. »« Ben, elle songe qu'à cela !» s'écria Freinet. Et comme Julien ouvrait la bouche pour lui imposer silence, l'impitoyable bavard ajouta « Mais c'est toi qui me l'as dit. Tu m'as dit aussi qu'elle a juré d'épouser l'homme qui arrêtera l'assassin. Et c'est une jolie prime à gagner que la main de Mademoiselle Monistrol, puisque l'invention de son papa doit rapporter des millions. Je me serais peut-être mis sur les rangs, mais cette demoiselle doit avoir une dent contre moi. Et d'ailleurs, je puis mieux employer mon temps. » Freinet, pour souligner cette dernière phrase, lança une œillade incendiaire à la Hongroise, qui répondit par un sourire encourageant. Julien était outré, et pour mettre un terme à cet insupportable marivaudage, il allait rompre en visière à cette femme en lui enjoignant de déguerpir, lorsqu'un maître d'hôtel, venu des salles du rez-de-chaussée, s'approcha sournoisement de la table et demanda « Dois-je remettre à madame une carte qu'un monsieur m'a chargée de porter à madame la comtesse de Lugos ?»« Donnez, » dit l'étrangère en étendant le bras. La carte passa sous le nez d'Alfred, et dès que la dame y eut jeté les yeux, elle s'écria « Ah, oh, je savais bien que monsieur Tergovis ne me ferait pas faux bond. Il est au concert, il m'a vu, et il me prie de venir le rejoindre. » Puis, s'adressant au maître d'hôtel, « Dites à ce monsieur que je descends. »« Quoi, vous allez nous quitter ?» soupira Freinet. « Ah, mon grand regret, cher monsieur, mais il le faut. Mon compatriote a ma parole pour ce soir, et quand je promets, je tiens. »« Présentez-nous à lui, tout de suite. Nous finirons la soirée à nous quatre. » « Ce serait charmant, mais il me semble plus convenable de remettre la présentation à un autre jour, chez moi, quand j'aurai le plaisir de vous y recevoir. Il habite donc aussi le grand hôtel, votre compatriote ? Dit Freinet avec intention. Non, monsieur, répliqua froidement Madame de Lugos. Mais je suis seul et il m'arrive parfois de m'ennuyer. Monsieur Tergovit sait cela et vient à peu près tous les jours me tenir compagnie. C'est pourquoi j'aurais tort de ne pas aller le rejoindre. Au revoir donc, messieurs, ou adieu, conclut l'étrangère en se levant d'un air si délibéré que Freinet s'effaça pour la laisser passer et ne chercha point à la retenir. Elle traversa la terrasse sans regarder personne et elle disparut dans le couloir où aboutit l'escalier. Gébozag n'attendait que son départ pour éclater. « Mais t'as donc juré de te brouiller avec moi ? » commença-t-il en roulant des yeux furibonds. « Pourquoi ? » demanda froidement Alfred. « Parce que je viens de poser des jalons pour faire mon chemin dans les bonnes grâces d'une jolie femme. Car elle est très jolie, hein, tu peux pas le nier. » Mais bon, le faisant ta maîtresse si tu veux, mais ne lui raconte pas mes affaires et celles des autres. Bon, tu me reproches d'avoir parlé de toi et de Mademoiselle Monistrol, mais où est le mal ? Elle ne te connaît pas, et elle ne rencontrera probablement jamais cette jeune fille qui t'intéresse si fort. La comtesse vient à Paris pour s'amuser et pas du tout pour se mêler d'une histoire qui ne la regarde pas. Alors, tu crois que c'est une vraie comtesse ? En vérité, t'es trop bête. Pas si bête que tu le penses. Je m'inquiète fort peu de ces quartiers de noblesse, mais je trouve sa personne à mon goût et j'entrevois une liaison des plus divertissantes. Les étrangères, ça me va, surtout les excentriques. Ça vous change et ça n'engage à rien. Avec celle-là, je ferai pendant 6 semaines une vie de bâton de chaise et... quand elle retournera en Hongrie, je me dispenserai de l'y accompagner. Prends garde qu'elle ne te mène plus loin que tu voudrais aller. Cette créature est une drôlesse de la pire espèce, et son monsieur Tergovitz ne vaut pas mieux qu'elle. Je l'ai vu, moi, pendant que tu recoulais sottement avec la belle. Il était planté sous la terrasse, et ils échangeaient des signes. Je suis sûr qu'ils s'entendent comme larrons en foire, et ils t'en feront voir de belles si tu es assez fou pour te lancer dans l'intimité de la dame. Peu importe, après tout, casse-toi le cou si tu veux, mais ne prononce plus jamais mon nom devant ces gens-là. Mais celui de Mademoiselle Monistrol s'est entendu. Il est probable du reste que la comtesse n'a retenu ni l'un ni l'autre, et très certain qu'elle ne s'attend pas à te revoir, car... tu lui as pas dit tout le temps que les choses fort désagréables. Je ne m'en ai pas dit assez. Cette femme me déplaît, autant qu'elle te plaît, et ce n'est pas peu dire. J'ai le pressentiment qu'elle me fera du mal. Comment diable s'y prendrait-elle pour te nuire ? Tu es décidé à ne pas aller chez elle, et vraisemblablement tu ne la trouveras jamais sur ton chemin. Et du reste, pourquoi chercherait-elle à te jouer un mauvais tour ? Et tu n'as pas été poli avec elle, mais c'est pas une raison suffisante pour qu'elle te déclare la vendetta. Mais si je te disais que je suis à peu près sûr de l'avoir déjà vue ailleurs et sous un autre costume. Pas dans le monde, je suppose, tu n'y vas plus, ni chez une des horizontales que tu fréquentes. Il y en a ce soir une flotte sur la terrasse où nous dînons. Toutes ont examiné ma hongroise et j'ai fort bien vu que pas une ne la connaissait. C'est possible, mais tu ne montreras pas de l'esprit qu'elle est montée ici tout exprès pour entrer en conversation avec nous et pour nous faire dire des choses qu'elle avait intérêt à savoir. Tu l'as servie à souhait car tu lui as fourni une foule de renseignements qu'elle ne te demandait pas. Oh, sur Mademoiselle Monistrol, voilà ta manie qui te reprend. Ton tâche du moins de réparer ta sottise en m'aidant à découvrir à qui nous avions eu affaire. Il te sera facile, quand tu la reverras, d'observer ses allures et son entourage, car je la soupçonne d'être moins seule qu'elle ne le prétend. Dans tous les cas, elle doit avoir une femme de chambre, et moyennant un louis ou deux, la soubrette t'apprendra ce que vaut sa maîtresse. Allons bon, voilà maintenant que tu me parles de me faire ton espion. Ça ne me va guère, mais enfin, quand ce ne serait que pour te guérir de tes préventions contre cette pauvre comtesse. Tiens, je la vois, elle est entrée au concert, et elle cause avec un monsieur là-bas, dans le coin. Oui, grommela Julien, avec le monsieur, qui tout à l'heure lui faisait des signes. Je le reconnais parfaitement. Mais gentil homme hongrois, parbleu, dit Freinet. Oh, il n'est, j'en réponds, ni hongrois ni gentilhomme. Il est, dans tous les cas, fort bien de sa personne. Je conviens cependant qu'il a plutôt l'air d'un amant parisien que d'un seigneur maillard. Et d'un amant complaisant. Il aperçoit sa maîtresse attablée avec deux jeunes gens, et au lieu de monter pour lui faire une scène, ou tout au moins pour nous demander des explications, il se contente d'entamer d'en bas une télégraphie clandestine. Ça prouve qu'en Hongrie, on n'est pas jaloux. Chaque pays a ses mœurs. D'ailleurs, il n'en s'en est pas tenu là, puisqu'il a envoyé sa carte à la comtesse. C'est à nous qu'il aurait dû la faire remettre s'il avait du cœur. Tu juges bien légèrement, se dit M. Tergovitz, car enfin il n'est peut-être que l'ami de Mme Lugos. Et ce qui me le ferait croire, c'est que si elle était sa maîtresse, elle filerait avec lui, et les voilà qui s'installent côte à côte sur deux fauteuils de bois. Ils entament un dialogue vif et animé. Ah, c'est dommage que nous ne puissions pas entendre ce qu'ils se racontent. Tu serais fixé, et moi aussi. Freinet ne croyait pas dire si juste, car la conversation qui venait de s'engager entre l'étrangère et son cavalier ne lui aurait laissé aucun doute sur la nature de leur relation. « Ne restons pas là, disait l'homme, ils nous voient de là-haut. Ben, »« Je le sais bien, répondit la dame, mais je leur ai annoncé que j'allais te rejoindre au concert. Si nous partions tout de suite, nous aurions l'air de nous sauver. Pour bien jouer mon rôle, il faut au contraire que je reste à causer tranquillement avec toi. » Alors, la blague a pris, qu'est-ce que tu leur as raconté ? Que je suis la comtesse de Lugos, que je viens à Paris pour m'amuser, que je n'y connais personne, si ce n'est un de mes compatriotes, un noble hongrois, qui répond au nom de Tergovitz. C'est toi qui es Tergovitz. Et ils ont gobé l'histoire ? On fait semblant de la gober, mais c'est tout ce qu'il faut pour le moment. Ils ne t'ont pas reconnu ? Ah, ça non, j'en suis sûr. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ces deux citoyens-là ? Le plus petit s'appelle Alfred de Freinet, il est baron, et il me fait l'effet de ne penser qu'à s'amuser. Il s'est allumé sur moi, il va me courir après, c'est sûr. Celui-là n'est pas dangereux, mais je me défie de l'autre, le grand blond. Il n'a pas dit grand-chose et il a fait que de me regarder tout le temps. Sais-tu son nom ? Parbleu, je me suis monté que pour le savoir, et j'ai pas des renseignements complets. Julien Gémozague, fils de Monsieur Gémozague. Ah, le Gémozague, qui a une usine sur laquelle j'ai ma... Oh, il doit être riche à millions. Oui, et de plus, il était l'associé du père de la petite. Comme ça se trouve, hein, le fils qui tombe justement à la foire, au pain d'épices le soir de l'affaire. Ah, le plus drôle, c'est qu'elle est très riche, la fille Monistrol. Son père a inventé je sais quoi, et l'invention rapportera beaucoup d'argent. Oh, c'est bon à savoir. Attends, j'ai pas fini. Cette douce enfant a juré de venger son papa. Elle offre sa main à qui découvrira l'homme qui a fait le coup. Et Julien Gémozague a bonne envie de gagner le prix. Nous voilà avertis. Je ne les crains pas. Ni moi non plus, ils seront pas plus malins que le juge d'instruction, mais il y a cette brute de cour à pied. Il nous reconnaîtrait, lui, s'il nous rencontrait, et tu peux être sûr qu'il nous cherche. Nous ferions peut-être bien d'aller passer 2 ou 3 mois en Angleterre. Allons donc, allez, nous y mangerions notre argent, tandis qu'à Paris, nous sommes sûrs de réussir. Tu connais le programme. Oui, parfaitement. Chacun travaillera de son côté et on partagera les bénéfices. Mais pour commencer, ça va coûter cher. Bien, trop bien, mais je compte sur une dizaine de 1 000 francs de frais du premier établissement. Tu leur as dit que tu logeais au Grand Hôtel? Oui, je parierais que le Freinet viendra demain m'y faire une visite. Il faut donc alors que tu débarques demain avec tes bagages et ta femme de chambre. Les colis t'attendent à la gare de l'Est où je les ai déposés en ton nom. T'auras qu'à les y prendre et ce soir, je te présenterai la femme de chambre. Tu la connais d'ailleurs. Olga, la tireuse de cartes, oh, c'est une fine mouche et si tu es sûr d'elle, comme de toi. D'ailleurs, je la tiens. Si elle bronchait, j'ai de quoi la faire envoyer à la centrale pour 10 ans. Maintenant, je suis pas disposé à entrer dans la peau du seigneur hongrois que tu m'as inventé. Je te gênerai. Et il vaut mieux que je figure pas dans la comédie que tu vas jouer. Je m'installerai à part et pas sous le nom de Tergovitz. Bon, comme tu voudras, pourvu que je te voie tous les jours. Non, toutes les nuits. Nous nous rencontrerons dans notre cassine de la plaine Saint-Denis. À moins l'empêchement de ta part ou de la mienne, mais on part tout ailleurs, nous n'aurons pas l'air de nous connaître. Mauvais, les imbéciles qui dînent là-haut t'ont vu avec moi. Moi, je m'arrangerai pour jamais les rencontrer. Du reste, j'entends pas que tu ailles trop loin avec le gommeux que tu viens de lever. Tu le recevras, bon, tu le laisseras faire la cour, tu t'arrangeras pour qu'il te tienne au courant des opérations de son ami Gémozac, qui va probablement se mettre en campagne pour plaire à la petite. Celle-là, je me charge de la surveiller. Bon, mais pas de bêtises, mon cher. Si tu t'avisais de faire concurrence à ce Gémozac, il t'enculerait. Je serais capable de dénoncer. J'aime pas le partage, moi. N'aie pas peur. Nous sommes rivés et quand nous nous retirerons des affaires après fortune faite, nous irons vivre maritalement à l'étranger en attendant que je puisse t'épouser. Mais vois donc là-haut. Ils se lèvent. Ils sont capables de descendre ici pour me regarder sous le nez. C'est le moment de filer. Et pour aller où? Ben, la Grange Rouge, pardieu. C'est la dernière fois que nous y coucherons. Mais tu sais bien que j'ai besoin de vigoureux. Il doit être rentré depuis longtemps et nous allons le trouver couché sur la boîte qu'il est allé me chercher à la baraque. Ah, tu aurais mieux fait de la laisser, ta boîte. Vigoureux et malin, mais on peut le suivre. Qui? La baraque est vide, puisque le patron a levé le pied. Je n'avais pas envie d'abandonner au premier venu ce qu'il y a dans ma cassette. J'ai déjà assez regretté de l'avoir oublié dans la précipitation de notre départ. Quand je la tiendrai, je ne craindrai plus rien. Le digne couple sortit du concert par la porte qui s'ouvre du côté de la place de la Concorde, cependant qu'Alfred et Julien y entraient par le restaurant. Ils s'étaient décidés à descendre pour voir de plus près la comtesse et son chevalier. Ils arrivèrent trop tard. Les oiseaux s'étaient envolés. Bon, dit Freinet qui prenait toujours les choses gaiement. Ce n'est que partie remise. Demain, je te rendrai bon compte de Madame de Lukos et de Monsieur Tchergovitz.